connaissais déjà ce que c'était que le travail de la terre ?
Non, et heureusement, je crois. C'est dur ce que je dis, mais... ouais, j'étais très... Je suis partie comme un marin qui partirait sans poids, avec la foi, quoi, vraiment, mais tu dis pas très rationnel.
Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcasts, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour.
Bonjour Nadège.
Bonjour Jean-Philippe.
Nadège, pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Oui, alors j'ai 45 ans, je suis agricultrice depuis 2012. J'ai créé et je gère une exploitation qui s'appelait la Cueillette des Fruits Rouges, qui est à Labège, près de Toulouse, et qui s'appelle le Champ des Possibles depuis cette année, depuis 2020. Je suis également coach certifiée, formatrice et consultante en évolution professionnelle.
Génial. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Est-ce que tu as toujours fait ça, le champ des possibles, le coaching ? Comment est-ce que ça t'est venu ? Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Non, pas du tout. En fait, j'ai fait toutes mes études pour être chercheur à l'INRA. C'était vraiment mon objectif depuis la quatrième. Donc, quand j'ai un objectif, en général, je fais tout pour y arriver. Donc, j'ai fait les études en conséquence. Et au moment, en fait, quand j'ai fait mon stage de DEA, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi la vie en labo. Et donc, j'ai cherché du travail et je me suis orientée vers des choses que j'aimais, en fait, l'écriture, donc le journalisme agricole. Donc, j'ai fait des études, d'ingénieur agro. Hein. Je suis ingénieur agro de Rennes. J'ai cherché dans la voie journaliste, j'ai cherché dans la voie aussi conseil en agronomie, en particulier en agriculture biologique, parce que c'était déjà des choses qui me tenaient à cœur, et l'enseignement, en fait, voilà, donc c'était les trois pistes, et le hasard a fait que c'est le journalisme agricole par lequel j'ai commencé ma carrière. Ensuite, par opportunité, par envie de changement, j'ai atterri dans la communication, quelque chose auquel je pensais absolument pas. Donc, j'ai fait pas mal de boîtes, des grosses boîtes, des petites boîtes, des agences, des entreprises pendant 12 ans. Donc, j'ai eu des postes aussi à responsabilité dans des grandes entreprises, notamment dans des banques. Et puis, des missions diverses et variées aussi dans l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et à 28 ans, quand je suis venue à Toulouse, j'ai fait un bilan de compétences. Et là, j'ai identifié comme piste le coaching, en fait, parce que je me suis toujours intéressée depuis l'adolescence à tout ce qui est spiritualité, développement personnel, la recherche du bonheur, etc. Et là, ça a fait vraiment tilt. Je me suis dit, c'est vraiment mon métier idéal, rêvé pour moi. Enfin, voilà. Sauf qu'à l'époque, j'étais encore jeune. Il y avait des études qui étaient très coûteuses. Et puis, les coachs étaient souvent des managers âgés avec beaucoup de réseaux, ce qui n'était pas mon cas non plus. Et donc, voilà, j'ai laissé un peu tomber ce projet puisque s'il n'était pas faisable dans l'immédiat. Et il a réémergé 15 ans plus tard, donc il y a 4-5 ans maintenant. Et j'ai suivi des études de coaching donc certifiantes et qui m'ont passionnée. Et depuis, j'ai vraiment la certitude que c'est vraiment ma voie. En parallèle, suite à mes différentes expériences de salariat, il y avait toujours une insatisfaction. Et puis également dans un but de mieux équilibrer ma vie pro et perso, parce que à l'époque, mon mari travaillait beaucoup et donc j'estimais que... avoir des enfants, c'était aussi pour s'en occuper, donc avoir une certaine disponibilité, j'ai choisi de créer une exploitation agricole. J'avais vu des modèles intéressants en Ariège, où je travaillais à la chambre d'agriculture en tant que chargée de communication. Et puis j'avais aussi à disposition potentiellement des terres donc à la Belge où j'aurais pu faire un projet. Donc je me disais aussi que c'était un bon moyen de valoriser ces terres périurbaines. Et donc quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai travaillé ce projet et puis donc je l'ai concrétisé en 2012. Et le coaching c'est venu donc en 2016. Et ensuite donc j'ai développé la ferme que j'ai toujours, hein, qui existe toujours. Qui était surtout orientée cueillette à la base, hein, cueillette de fruits rouges, avec beaucoup de fraises notamment. 2 ans après, j'ai créé un atelier de transformation, ce qui est assez naturel hein, dans son genre d'exploitation. Et puis, je me suis associée avec une ingénieure agro, 6 ans après mon installation. Ça a pas mal fonctionné, mais elle est partie notamment pour des questions financières, parce que l'agriculture, malheureusement... y a des aléas et puis on n'est pas assuré d'avoir un revenu et donc elle avait d'autres projets personnels et donc j'ai développé en parallèle mon activité de consultante en évolution professionnelle donc je suis consultante en évolution professionnelle et je réalise beaucoup de bilans de compétences ce qui est un très bon outil pour aider les gens justement à évoluer professionnellement mais aussi personnellement. Donc ça, je l'exerce en indépendante à côté de mon exploitation. Et cette activité s'est beaucoup développée depuis que je fais, à tel point qu'aujourd'hui, c'est quasiment un plein temps.
D'accord. Alors, j'ai 1 milliard de questions qui me viennent par rapport à ton parcours. La première, si on remonte dans le temps, c'est par rapport à ta première activité de journaliste agricole. Mm-hmm. Est-ce que tu peux développer qu'est-ce que c'est en fait le journalisme agricole?
Alors, il y a des journaux agricoles départementaux, souvent, qui, en fait, transmettent de l'information pratique sur les cultures, les tâches agronomiques à faire tout au long des saisons, des conseils culturaux, par exemple, ou des conseils en élevage. Ensuite, il y a aussi des informations juridiques, il peut y avoir des reportages, des petites annonces qui sont très lues en général. C'est un média professionnel, je dirais... qui permet de faire le lien, les médias professionnels. Et donc, j'avais pour mission, en général, c'est des postes où tu as un journaliste par département qui est en complète autonomie. Donc, ce qui est génial, en fait, parce que tu gères tes 4, 5, 6 pages en complète autonomie. Donc, tu es en partenariat avec les chambres d'agriculture, les coopératives, tout le milieu du conseil qui gravite autour du milieu agricole. Et puis tu vas aussi sur le terrain faire des interviews, des reportages, tu as une partie créative puisque tu mets toi-même en page tes pages hein, bien souvent, donc c'est très complet, c'est sympa, tu es sur le terrain au bureau, enfin voilà, j'ai vraiment aimé ce métier. Après j'avais l'impression d'être spectatrice et pas actrice, c'est-à-dire que je voyais les autres faire et des fois c'était frustrant, en fait je me disais mince, c'est cool de reporter les choses, mais moi j'aimerais aussi être plus dans le faire, l'action.
Et c'est ça qui t'a amené, après en 2012, à lancer le champ des possibles, mais par rapport au... Enfin, j'imagine, d'ailleurs, c'est une question.
Oui, et puis, alors où j'étais salariée à l'époque, j'étais dans une chambre d'agriculture, dans la chambre d'agriculture de l'Ariège, où franchement j'avais un poste... vraiment sympa, j'étais avec des gens, vraiment une très bonne ambiance, j'étais en autonomie, je faisais vraiment ce que je voulais quasiment, c'était vraiment très très écrit, je pouvais mettre en œuvre ma créativité, c'était vraiment un job super sympa, mais malheureusement dans un système qui n'était pas très dynamique, et puis je commençais à ressentir de l'ennui, hein. Le problème de mes jobs salariés, c'est que très souvent au bout de 6 mois, j'ai appris ce que j'avais à apprendre et puis je m'ennuie en fait, hein. Donc c'est pour ça que j'ai dû changer plein de fois de métier en salariat, avec toujours une insatisfaction pas très définie d'ailleurs, hein. Je suis pas satisfaite, je sais pas trop pourquoi, c'est sympa mais moi ça me va pas, de pas être à ma place, de pas être dans la maîtrise de ma vie, et puis donc job sympa et puis il n'y avait pas forcément d'évolution possible dans le réseau des chambres d'agriculture, et puis j'avais pas envie de revenir dans un système classique, grandes entreprises, gros postes, je savais ce que c'était, surtout au niveau familial, donc je voulais être disponible pour mes enfants, et je me suis dit que la meilleure façon, c'était de créer quelque chose, et j'avais vu, au cours d'un reportage, une cueillette, en Ariège, je trouvais ça génial, le concept, et je me suis dit, tiens, c'est un super concept, je pourrais faire ça à la Belge, et j'ai étudié le truc, Et puis, ça a mis un an et demi, entre la cogitation, la préparation du projet, mais c'est né en 2012.
Et tu parles de la Bège, toi tu es originaire de Toulouse, enfin de la région
non,
toulousaine?
Non, pas du tout, moi je suis de Charente-Maritime et c'est mon ex-conjoint qui est de la Bège en fait, donc j'avais tout quitté pour m'installer à Toulouse. Voilà, c'est un choix. J'aime bien Toulouse, après je pense que c'est pas là où j'aimerais forcément finir ma vie. L'océan me manque vraiment beaucoup, la mer, mais c'est une région qui est quand même dynamique au niveau professionnel, qui est vraiment super chouette. Avec un état d'esprit qui me convient, et puis voilà, j'aime bien, c'est toujours un peu en effervescence, et c'est une ville ouverte aussi, donc j'aime assez Toulouse. Ouais.
Et tu disais avant de te lancer à la Bège, tu travaillais en Ariège, donc c'est
Ouais.
pas forcément non plus
Bah,
trop la ville.
je faisais la route en fait, hein. J'habitais pas sur place, donc je faisais la route, la Bège fois tous les jours pendant 3 ans, j'ai fait ça.
Ah oui,
Ah
d'accord. Ah
oui,
oui.
ah
Alors
oui.
oui. Et pour ceux qui connaissent pas trop la région, ouais, c'est quoi? Il y a bien 1 heure et demie, 2 heures de route quand même.
Il y a une bonne heure, ouais, plus de 100 km, hein, ouais, par auto.
D'accord. Et d'accord. Donc mais tu habitais déjà la
Ouais,
Bège à l'époque en fait.
tout à fait.
Et alors, si on revient sur ce moment un peu déclic, comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que entre regarder un documentaire et se dire ça a l'air sympa la cueillette et finalement se lancer, toi tu avais des terres de disponibles à la Bège, elles venaient d'où? Enfin,
Ouais, donc
comment est-ce que.
à l'époque, ma belle-famille, effectivement, avait quelques hectares qui étaient cultivés par des cousins en céréales, hein, voilà, donc qui étaient en fermage. Et donc, moi, je trouvais dommage, c'est vraiment un lieu quand même privilégié au niveau naturel et un emplacement qui est franchement idéal aussi, hein, à 10 km de la ville. Donc, je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau agro-touristique, au niveau vente directe, enfin voilà, il y a quelque chose. Vraiment de super affaires. Et puis c'était aussi pour m'ancrer, je pense, dans le territoire, hein. Le but c'était aussi de m'intégrer dans le réseau social local, puisque je n'étais pas de la région. Et donc, ouais, et puis il y avait aussi les enfants, donc d'avoir un job qui me permette au niveau du temps d'être plus libre. Enfin, c'est pas mal de choses. En fait, après, je ne me suis pas posé 10 000 fois la question. Ce qui m'a permis aussi de prendre la décision, c'est que mon ex-mari avait un salaire quand même assez confortable qui nous permettait de vivre, je dirais, sans forcément que moi j'ai de gros revenus. Hein, il m'en fallait une, et puis voilà. Mais disons que j'avais cette sécurité sans laquelle je pense que je ne me serais peut-être pas lancée en fait. Parce que j'ai quand même cette notion de cette valeur de sécurité qui est vraiment très forte en moi et qui, encore maintenant, est présente parfois, vraiment m'engendre des peurs impressionnantes, alors que souvent je me rends compte que je m'en tire toujours et que voilà, ça se passe bien, je me fais des montagnes. Mais il y avait quand même cette notion de sécurité financière, parce que j'avais quand même conscience que quand tu es entrepreneur, bah, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est une aventure, c'est risqué. Donc j'avais quand même ce filet de sécurité qui m'a permis de, comme un tremplin en fait, tu rebondis et puis bah, après tu sais pas où tu vas, mais tu te lances quoi.
Ouais, on va revenir ensuite là, sur un petit peu la sécurité financière et finalement le contexte dans lequel les gens évoluent. Mais justement, pour en revenir encore à ce moment de prise de décision, en fait, de se lancer,
Ouais.
toi, est-ce qu'il y avait, c'était quoi la volonté derrière de dire je passe à l'action, moi aussi je crée une activité cueillette, c'était.
Alors, je sais pas, c'est très souterrain en fait, ce genre de choses. T'as des besoins qui sont pas satisfaits, t'as des insatisfactions. Après, c'est une ouverture d'esprit qui fait que tu regardes du coup autour de toi ce qui est possible de faire. Tu vois un élément qui peut mettre de l'eau au moulin dans ta réflexion, et tu te dis, ouais, je sais pas, il y a un déclic, une espèce au bout d'un moment d'évidence, c'est comme une source, si tu veux, qui mène son chemin, là, qui s'alimente avec l'eau qui tombe du ciel, etc. Puis à un moment, il y a une faille, je sais pas, quelque chose dans la falaise qui fait que l'eau, ben, ou des conditions favorables, ou quelque chose qui fait que tu sens que c'est le moment, et puis que, ouais, c'est évident, en fait. Mais tant que c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas enfin, facile. C'est là où tu as toutes tes peurs, tes incertitudes, tu te poses 1 000 questions, même au niveau technique, enfin voilà, au niveau mise en œuvre. Mais à un moment, tu as la conviction que ouais, c'est ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup, que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Je me pose pas 10 000 questions quand j'ai décidé un truc, j'y vais quoi. Enfin, je suis pas très rationnelle en fait, des fois, peut-être pas assez. Et j'y vais sans trop j'ai une espèce de naïveté parfois qui. ouais, voilà, j'y vais, quoi, j'essaye, je suis assez peut-être aventurière dans l'âme, je sais pas. Mais voilà, je me pose pas 10 000 questions, j'y vais si vraiment j'ai cette conviction intérieure, si je suis ressenti de joie comme quelque chose qui, quand tu le visualises, quand tu t'imagines, oh, ouais, ça t'expanse, t'es en joie, tu te dis, ah ouais, ça va être génial, enfin, tu vois, il y a un truc qui, une espèce d'expansion, là, et bah, tu te dis, ouais, enfin, c'est vraiment évident, c'est ça, quoi, là, je vais être heureuse avec ce choix-là, donc, faut que je le fasse, puis après, bah, tu te débrouilles pour le faire, quoi, enfin, après, c'est... Je dirais le fait que j'ai des études généralistes et puis que je n'ai pas forcément peur, parce que aussi j'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui je ne crains pas grand-chose en fait. Hein. Donc quand tu as traversé des périodes un peu compliquées, ben, parfois c'est du pipi de chat, quoi, hein, monter un projet. Et puis tu dis au pire, ça rate. Voilà, j'ai pas fait d'investissement financier non plus très très lourd. C'est-à-dire je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux mettre même si ça rate, enfin voilà, que ça ne mette pas la maison sous l'eau, quoi. Voilà, j'ai pris un emprunt de manière à ce que ça ne mette pas en péril mes finances personnelles. Et puis c'est un ensemble de choses, mais je suis assez naïve en fait, ouais, et positive aussi, je pense. Et donc voilà, quand t'es pas dans la peur, quand t'es vraiment dans la joie d'un objectif qui tu sens que c'est vraiment, ouais, si tu peux pas faire autre chose tellement ça t'envahit, voilà, bah t'y vas, quoi. Enfin moi j'y vais.
Et je te pose la question parce que souvent, les gens qui ne faisaient pas de métier de la terre, on va dire, hein, ou de métier agricole à la base, même si toi, tu baignais quand même pas mal dans ce secteur et cet environnement, ils essayent un petit peu avant de se lancer. Il y en a beaucoup qui ont fait du woofing avant de se dire « Ok, j'entame une reconversion en tant que maraîcher, en tant qu'éleveur, etc. » pour justement bah, déjà mettre un peu les mains dans le cambouis au-delà de l'imagination de se visualiser dans ce nouveau job. Toi, tu avais aussi essayé à travers tes activités précédentes, tu connaissais déjà ce que c'était que le travail de la terre ?
Non, et heureusement, je crois. c'est dur ce que je dis, mais... ouais, j'étais très... Je suis partie comme un marin qui partirait sans avec la foi, quoi, vraiment, mais tu dis pas très rationnel. Je pense que c'est très bien d'essayer, franchement... Alors c'est très paradoxal. D'un côté, je me dis que c'est super les gens qui testent parce qu'ils se rendent compte vraiment des réalités, que c'est difficile. Donc ça, c'est super. Enfin, j'encourage vraiment ceux à le faire. Après, moi, je pense que si j'avais testé, bah j'aurais peut-être pas fait en fait. Donc, et je regrette pas de l'avoir fait. Donc, je pense qu'il faut s'écouter en fait. Il faut vraiment s'écouter, dire est-ce que j'ai besoin de tester le truc. Par contre, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations auprès des personnes. J'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai pris beaucoup d'infos sur Internet. Enfin, j'ai pris un an de préparation quand même. Hein. Et après, alors physiquement aussi, moi, je suis petite fille d'agriculteur. Mes parents avaient un immense jardin. Donc, d'ailleurs, je n'aimais pas forcément jardiner hein, quand j'étais jeune. Donc, là aussi, c'est paradoxal. Mais c'était plus le sens du projet qui m'intéressait, c'était bah, voilà, mes enfants, ma qualité de vie, monter quelque chose, ça c'est super excitant, monter ton projet, faire comme tu le veux, c'est plus les objectifs qui m'ont permis de dépasser les freins, etc. Mais tester, ouais, c'est bien de tester, je pense que c'est une bonne chose, et par self-test, tout ça, c'est super. Après, il faut pas, au bout d'un moment, quand on entreprend quelque chose, un projet, il faut y aller, quoi, il faut être dans l'action, tu peux pas toujours être dans le test, et puis te poser 10 000 questions, sinon, ça prend 10 ans, 15 ans, t'avances pas, et puis tu t'enlises, et tu te décourages, et tu fais plus rien, quoi. Donc, y a cette part, quand même, de prise de risque, de saut dans le vide, je pense, qui est commun à tous les entrepreneurs.
Et une fois que donc tu t'es lancé dans le champ des possibles, ou en tout cas que tu l'as imaginé, par rapport à ton entourage, donc tu disais, j'imagine que tu en as parlé quand même avec ton mari à l'époque, et vu qu'il avait une situation financière plutôt bien établie et que ça a aidé, enfin, vous êtes mis d'accord, mais tes amis, ta famille, enfin, et tes enfants, je ne sais pas quel âge ils avaient à ce moment-là. D'accord, oui, donc c'est, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'était quoi les retours un peu que tu as eus ?
Bah, mon mari m'a toujours soutenue en fait. Hein. Il dit tu fais ce que tu veux. Puis je pense que je suis quelqu'un quand même de raisonnable. Hein. Je suis pas non plus téméraire et j'ai quand même cette valeur de sécurité qui est très ancrée. Donc je vais pas prendre des risques inconsidérés. Donc il m'a soutenue même concrètement pour faire des travaux de champ hein, parce que c'est pas du tout lui son job et ça l'attirait pas forcément non plus du tout. Mais après, c'est peut-être plutôt mes parents qui se sont dit encore quelle lubie elle a, parce que comme j'ai changé 10 fois de métier, que voilà, ils ont une vision plus, prend pas de risques, soit fonctionnaire, etc. C'est plus eux qui m'ont transmis, enfin qui m'ont fait part de leur, peut-être leur peur, leur crainte. Pour autant, j'étais pas dans une situation mère célibataire toute seule, enfin voilà, sans ressources. Donc ils avaient aussi une conscience que c'était pas un projet non plus peut-être trop risqué. C'était plus en termes de lubie, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore, qu'est-ce que c'est que ce projet, un étonnement et ouais des craintes, mais bon, je suis passée par dessus comme chaque fois. Hein. Si j'avais écouté mes parents, enfin je serais pas là où j'en suis, je serais peut-être fonctionnaire à mourir d'ennui, je serais peut-être morte d'ennui d'ailleurs, je pense. Donc bon voilà. Et puis après finalement, en voyant que ça fonctionnait, ils sont dit ouais tiens c'est bien. Et puis maintenant je pense qu'ils sont super contents en fait, ils sont plutôt fiers, donc c'est une vraie satisfaction. Et après, et mes amis, oui, je n'ai pas demandé l'avis, en fait. Je n'ai pas vraiment demandé l'avis de mes amis. Je ne suis pas quelqu'un qui demande forcément l'avis, peut-être à tort. Je suis plutôt du genre à me débrouiller toute seule. Et quand je décide un truc, je le fais, quoi. Et il faut vraiment qu'il y ait un argument de taille pour m'empêcher de faire quelque chose. Ouais. Ouais.
Et du coup, ça a marché tout de suite, le champ des possibles. C'est, enfin, comment... Comment tu t'es senti quand tu t'es lancé là-dedans, comment ça s'est passé les premières années et comment t'en es arrivé à te dire ok, en fait, j'ai envie de faire ça à mi-temps et de me lancer dans le coaching aussi.
Ah oui, tout de suite, dès que j'ai posé, alors c'était assez flippant parce que j'ai mon champ qui se remplissait de fraises rouges là et je me disais alors quand est-ce qu'il faut que j'ouvre, hein, parce que tu dis tu sais pas combien de clients tu vas avoir le premier jour, tu sais rien en fait, tu sais pas quand les jours d'ouverture, tu sais pas quand les faire. J'avais pas de suivi de formation concrète agricole dans ce domaine, hein. Moi ingénieur agro tu sais tout et rien faire, hein. Donc voilà, donc après c'est... mais en fait c'est beaucoup de bon sens et je me souviens c'était un dimanche, je voyais que mon champ quand même commençait à être rouge de frais, je me dis bon faut vraiment que j'ouvre là parce que c'est pas possible et j'étais pas prête, hein. Il y avait ma balance qui était à peine achetée, enfin bon ouais, le cabanon pas du tout prêt mais il fallait que j'ouvre et j'ai posé ma banderole un dimanche, je me souviens un matin là où j'avais mis cueillette fruits rouges et là t'as au moins trois personnes qui sont arrêtées et qui m'ont dit ah mais c'est génial et tout, on va venir, etc. Donnez-moi un flyer, etc. Il y a le facteur qui s'est arrêté, qui m'a dit ah ouais, c'est génial, donnez-moi vos flyers, je vais les mettre dans les boîtes aux lettres. Enfin, il y a eu un enthousiasme, c'était waouh. Je veux dire, t'as jamais ça quand t'es salarié, parce que c'était super chouette. Et puis après, bah, tu fais quoi. T'es obligé de rentrer dans l'action, de faire au quotidien, de gérer les choses quand elles arrivent. Donc, et puis ça a pris, ouais, j'ai beaucoup plus de demandes que ce que je peux proposer. Donc. Après tu te rends compte c'est là où j'ai pris conscience après en faisant dans l'année de toutes les difficultés de la production agricole, la météo, les aléas climatiques, des fois des soucis de matériel, du matériel que t'as pas qu'il faut acheter en catastrophe, t'as pas la trésorerie, tout ce qu'il faut gérer en même temps, voilà, c'est un métier hyper varié mais aussi du coup avec beaucoup de problèmes qui peuvent survenir, il faut être toujours dans la recherche de solutions, toujours positif et des fois t'as envie de pleurer parce que t'y arrives pas, parce que t'es fatigué, parce que t'en peux plus quoi, mais bon t'as pas le choix quoi, t'as tes plantes, il faut y aller et t'as tes clients qui attendent et donc ça c'est super super formateur, ouais. Donc un accueil très très positif dès que j'ai lancé aussi les outils de communication pareil, enfin vraiment c'est d'ailleurs c'est une de mes plus grandes satisfactions, c'est cet accueil que j'ai eu des clients, quoi. Des gamins qui sont enchantés, qui reviennent la bouche toute rouge, qui te sourient alors qu'ils sont arrivés en bof, bof, on va faire une activité avec papa, maman, hein, mais bof, et puis qui reviennent, ils ont la patate, des gens comme ça qui se sont rencontrés dans mon champ alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis l'école primaire. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça donne une couleur à la vie qui est géniale. Enfin, c'est vraiment super, quoi.
Bah ouais, j'imagine. Et t'as quand même réussi à en vivre de cette activité-là ou c'était compliqué ?
Alors, je dirais que ça dépend des années, en fait. Je dirais que ça dépend vraiment de la météo, puisque moi, j'ai aucune serre, hein, tout est en plein champ. Donc, si t'as une bonne météo, je dirais que je me suis fait jusqu'à 1500 euros, hein, par mois, donc ce qui était vraiment bien. Ça a dû arriver une fois, deux fois en 9-10 ans, quoi, en fait, depuis que je me suis installée. Après, il y a eu des années où j'étais en déficit, parce que ben, pas de production, alors que tu as travaillé pareil, parce que voilà, tu as ce problème météo, une maladie, un aléa climatique qui te bousille, une grêle, enfin qui te bousille tout, donc ben, voilà. Et puis des années moyennes, je dirais, où j'étais à 800, allez, un petit SMIC, voilà. Donc par rapport à ce que je gagnais avant, clairement, pas super satisfaisant, même ça peut même te faire parfois baisser de confiance en toi, parce que avant tu valais, je sais pas, 2000 euros, et là, tu ne vaux plus que 800 euros, quoi, en gros. Et tu vois, même si c'est pas ça mon moteur, malgré tout, du coup, bah, tu as des frustrations qui sont générées par ça, parce que tu peux pas forcément partir en vacances ou offrir à tes enfants, etc. Je pense que... Enfin, j'ai eu la réalité en pleine figure, comme quoi l'agriculture, c'est génial, hein, mais c'est quand même un métier vraiment difficile. Et puis là, j'étais toute seule beaucoup, pendant pas mal d'années, et aussi porter les décisions toujours toute seule, enfin, tout faire les travaux toute seule, c'était ça, ça devenait vraiment compliqué. Quand je me suis associée, ça a déjà été plus simple d'être à deux, ça change la vie, franchement. Donc, ce que je conseille aussi quand il y a un projet agricole, c'est éviter d'être le faire tout seul, parce qu'on peut vraiment vite s'épuiser moralement, physiquement. Et puis bien valoriser les produits aussi. Alors moi, j'ai la chance de bien valoriser mes produits, de pas avoir peur de mettre un prix de vente qui soit qui soit juste, quoi, en termes de, parce que c'est souvent des bons produits. Et moi, pendant pas mal d'années, j'ai sous-valorisé mes produits en termes de prix, parce que je me disais, ouais, quand même, au supermarché, c'est à tel prix. J'avais plein de complexes par rapport à l'argent, où je dévalorisais mes produits, alors qu'en fait, ils étaient super bien. Donc, les gens aussi, évidemment, ils venaient en masse, parce que c'était bon et pas cher, quoi. Donc, je pense que j'ai perdu pas mal d'argent avec ça. Donc, valoriser ces produits aussi par le marketing, par la communication, ça, c'est fondamental, parce que ça les vaut, en fait. On fait des super choses. Et puis, je ne sais plus le début de la question.
Non, mais c'était ça, c'était vraiment ce que tu arrivais à en vivre. Et puis, ouais. Peut-être ça me permet de faire la transition sur mais pourquoi à un moment donné tu t'es dit je vais revenir quand même vers cette première passion de coaching, d'accompagner les gens. Et pourquoi est-ce que je vais faire ce qu'on appelle du slashing, j'allais dire presque, ouais, aujourd'hui, et mêler les deux activités, ouais.
Ben, en fait, déjà, mes enfants ont grandi, donc j'étais moins coincée, je dirais, par leur emploi du temps, eux, le fait d'être présent, même s'il faut être présent, bien sûr, mais il y avait moins de choses à gérer du côté des enfants qui sont devenus plus autonomes. Moi aussi, j'ai voulu être plus indépendante financièrement aussi, donc gagner mon indépendance financière. Physiquement aussi, j'avoue qu'au bout de 8-9 ans d'agriculture, tu commences à voir l'ostéopathe quand même pas mal souvent. Et puis surtout parce que j'avais envie depuis tout le temps de faire ces études de coaching, vraiment c'était quelque chose qui était ancré, quoi. Et donc à un moment, je sais pas, j'ai rencontré un coach équin, en fait, qui fait du coaching avec les chevaux, et puis là ça a vraiment été le déclic. Je lui ai demandé à un moment, mais quelle étude t'as fait? Et là il m'a donné le truc, le nom de son site, de centre de formation. Je suis allée voir, et il y avait une promo, en fait, pour les 15 ans du centre de formation. Et j'avais mis un peu d'argent de côté, et je me suis dit, allez, hop, je me paye ces études, c'est le moment. Et puis voilà, c'est venu comme ça, en fait. Mais je pense que la vie repasse les plats. Et c'est un ensemble de choses, en fait. C'est pas une décision, tu vois. C'est un ensemble de choses, ouais. C'est pas... Mais ce truc anniversaire, là, où je pouvais enfin me payer ma formation, ça a été, ouais, je pense, un des déclics. Et puis là, dès que j'ai commencé, Puis j'avais 40 ans aussi, donc tu sais, les questions existentielles qu'on se pose. Est-ce que je me vois continuer comme ça, et dans ma vie perso, et dans ma vie pro, etc. Et non, il me fallait autre chose, quoi. Plus vivant, plus... J'étais plus sur la réalisation de moi-même profonde, même si j'aime l'aspect agricole, hein, et que je veux le continuer. Mais il me manquait l'aspect peut-être plus intellectuel, plus recherche spirituelle, plus aider les gens à atteindre leur potentiel, les situations à atteindre leur potentiel. Et donc, c'est ressorti à ce moment-là, en fait. Et donc, j'ai suivi ces études qui m'ont emballé. Enfin, là, c'est vraiment super, quoi. Et donc, j'ai développé ce côté-là, ouais, il y a 4-5 ans. Mm.
Et comment est-ce que tu fais pour lier les deux? Parce que j'imagine que le travail déjà en agriculture, c'est énorme, c'est beaucoup, ouais, de boulot. Mmh. Comment est-ce qu'en plus à côté tu arrives à faire du coaching? Tu te fais aider, tu accueilles des bénévoles, comment tu fais?
Déjà j'accueille pas mal de stagiaires, parce qu'en fait je suis facile d'accès par bus, donc j'ai toujours eu des propositions de stagiaires. J'ai aussi une école d'agriculture qui est tout près, en fait, hein, de mon exploitation, qui est plutôt orientée horticulture et maraîchage, mais donc j'ai aussi de temps en temps des élèves qui viennent là. J'ai eu des étudiants étrangers aussi qui ont connu mon exploitation, je ne sais pas comment, mais qui sont venus, c'était super enrichissant. Donc les stagiaires, j'ai eu beaucoup de monde dans ma famille m'a quand même aidé ponctuellement, mais sans eux, je pense que voilà, je n'aurais pas pu faire tout. Après c'est très sportif, après moi je suis quelqu'un d'hyper hyper rapide et hyper organisé, donc je pense que je peux faire peut-être deux choses en même temps. Je prends pas 10 ans pour prendre une décision, c'est tac tac tac, on avance. Et donc bon, je pense que ce tempérament m'aide aussi. Après, quand je me suis associée, alors là, ça a été le bonheur total d'être à deux. Franchement, j'ai pu prendre enfin une semaine de vacances l'été, plus être toute seule voilà, sur l'exploitation. Par et contre, ça, l'année dernière, ça a été franchement quasiment mission impossible. Enfin, franchement, je ne referais pas 2 ans comme l'année dernière, où j'avais les deux activités en parallèle. Donc, j'ai décidé de réduire une partie de ma production agricole, parce que sinon, je n'allais pas tenir, hein, clairement. C'était trop lourd, quoi. Donc, je m'oriente plus vers la transformation des fruits, parce que j'en fais depuis 6 ans maintenant. Et c'est quand même plus facile pour s'organiser. Donc, je vais vers des productions où je peux vraiment m'organiser plus facilement, des plantes qui demandent moins de main-d'œuvre. Tu vois, j'essaie d'organiser mon système en fonction de ma vie aussi, pour que ça soit gérable.
D'accord, ok. Donc maintenant que tu as quand même l'expérience vraiment de ce qui fonctionne, ce qui est le plus simple, là où tu prends le plus de plaisir et t'optimises en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des périodes, c'est pas évident, hein, j'ai des flips des fois en termes d'organisation, mais bon, je me rends compte que ça se fait toujours en fait. Donc bon, et puis si c'est pas parfait, bah voilà, c'est pas parfait. Voilà, je peux dire non aussi. Le fait d'être indépendant, si à un moment j'ai trop de boulot, je reporte un. Je peux dire très bien dire non à une prestation parce que j'ai trop de travail. Enfin, tu t'organises, enfin, je m'organise comme je veux, je suis maître. Donc après, ouais, c'est de l'optimisation.
Et sur le coaching, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu disais tu aides les gens au niveau professionnel à faire des bilans de compétences et à évoluer. Mmh. Et comment est-ce que ça t'est venu? Ça, c'est une envie d'aider les gens à trouver du sens dans leur vie professionnelle? C'est quoi?
Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, je faisais plusieurs coachings et j'avais plusieurs coachings en cours. Et plusieurs donc sur des problématiques, équilibre vie professionnelle, vie privée, voilà. Et en fait, un moment en août, c'était il y a 2 ou 3 ans, je me suis retrouvée vraiment en difficulté financière avec la cueillette parce que j'avais vraiment une très mauvaise année. C'était vraiment un pourri, quoi. C'était vraiment... Et là, j'ai eu un gros stress, hein, vraiment. Je me suis dit, je ne vais pas y arriver financièrement, je ne vais jamais réussir à mon autonomie financière, je ne vais jamais y arriver, quoi. Donc, un gros découragement. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, bouge-toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et en fait, comme j'avais fait un bilan de compétences, et que, en fait, je me rendais compte que la façon dont j'abordais le coaching, c'était aussi un peu celle du bilan de compétences, je me suis dit, tiens, mais tu pourrais peut-être faire des bilans de compétences, puisque, voilà. Je me suis dit, ouais, non, t'es pas psy, les centres, peut-être qu'ils prennent pas les gens comme ça. Et puis, j'avais plus rien à perdre, vraiment. J'étais vraiment à une espèce de désespoir au fond du trou. Là, je me dis, bon, de toute façon, ça coûte rien d'essayer. Donc, j'ai Internet, j'ai mis centre de bilan de compétences, j'ai vu un logo qui me plaisait, j'ai dit, hop, j'appelle. Et puis, en fait, 4 heures plus tard, j'étais prise dans ce centre pour être prestataire, en fait. Donc, c'est venu comme ça. Et après, ils m'ont formé. Et... Ouais. Donc, ça s'est fait comme ça, vraiment, presque par instinct de survie.
Et du coup, tu travailles avec des organismes qui font des bilans de compétences. C'est comme ça que tu t'organises sur le coaching?
Ouais, en fait, donc, je suis prestataire actuellement pour Orientaction. Hein, c'est un des leaders français du bilan de compétences. Clairement, l'avantage, c'est qu'ils m'envoient quand même mes clients. Moi, qui n'ai pas forcément la prospection commerciale. J'aime bien faire du commerce, mais pas forcément prospecter. Donc, j'ai cette sécurité que j'ai toujours des clients, en fait. Donc, ça, c'est super confortable. Et après, je dirais, c'est un contrat de prestation, donc, où tu... bilan de compétences. Après, j'ai aussi des clients coaching que moi, j'ai trouvé, en fait, hein, de par mon réseau pro, de par mon travail aussi de prospection perso, où j'ai notamment des chefs d'entreprise, j'ai pas mal de profils différents. Ou des gens qui sont à l'autre bout de la France et tu fais le truc par téléphone ou visio et c'est génial, c'est des super rencontres aussi, c'est possible à distance. Et donc voilà, essentiellement bilan de compétences. Et c'est bien parce que c'est des outils qui sont proches du coaching et j'ai une liberté d'action par rapport à la méthodologie, donc je peux utiliser ma propre façon de faire, entre guillemets. Donc ça m'a plu aussi au niveau du travail. Après, plus tard, là, j'envisage... d'être plus indépendante, d'avoir peut-être mon propre cabinet, je sais pas encore. Je suis en train de travailler sur le truc pour avoir monter un autre projet, en fait. Tous les 2 ans, j'ai un projet et là, je suis en train
de... Mais tu devances ma question parce que j'allais te demander justement c'est à quoi ressemble l'avenir pour toi. C'est un nouveau projet.
Alors là, je suis en pleine reconstruction personnelle, hein. Avec mon compagnon qui est aussi en plein questionnement professionnel, on aimerait bien ouvrir un projet qui allie peut-être atelier pratico-pratique, atelier autour de la nature, hein, ce que je propose déjà au champ des possibles, Et puis tout ce qui est accompagnement personnel pour les gens qui, par exemple, ont fait des burn-out ou qui sont vraiment au fond du trou, leur redonner du punch et des perspectives, bah, ouvrir le champ des possibles, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ma structure comme ça. Donc voilà, donc, sachant que je suis pas chez moi à la Bèche, donc je cherche aussi là un lieu où je pourrais recréer un projet. Mais je le vois comme ça, allier en fait... faire une synthèse en fait entre ces deux activités qui me plaisent, qui me tiennent à cœur, le travail avec les plantes et puis les mains dans la terre, l'ancrage quoi, avec voilà la production agricole, et puis l'aspect plus après accompagnement personnel, professionnel. J'aimerais continuer là-dedans.
Et tu veux rester vers la Bèche ou justement te rapprocher de l'océan comme tu disais?
Pour l'instant, je peux pas me rapprocher près de l'océan parce que mes enfants, leur scolarité, c'est pas évident. Non, rester autour de Toulouse, peut-être plutôt vers l'est toulousain pour des questions de compromis entre les enfants, etc., les activités des uns des autres. Voilà, donc je cherche une propriété, des terres, enfin quelque chose pour reconstruire. Bon, c'est pas urgent, mais le fait de ne pas être chez soi, de ne pas être propriétaire, finalement, tu ne peux pas monter un bâtiment comme tu veux, tu peux pas non plus te projeter complètement dans l'avenir, parce que tu as toujours cette incertitude du fermage si ça se termine, parce qu'en plus, je suis en zone urbaine, donc si demain, mon propriétaire préfère construire des bâtiments d'habitation, il se peut que moi, je sois comme force à déménager. Donc il y a toujours cette incertitude qui m'a empêchée aussi peut-être de m'investir pleinement au niveau des bâtiments, des capacités d'accueil à la Bèche.
Et aujourd'hui, si tu devais donner un ou des conseils ou juste faire passer un message à des ingénieurs agronomes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire bouger les choses et de s'engager dans la transition écologique à travers peut-être un retour à la terre, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
De toute façon, on en a besoin, donc allez-y. Après, c'est comme tout projet, il y a une part de prise de risque, il y a une part d'oser, hein, il y a une part d'audace, il y a une part d'être rationnel aussi en préparant son projet, donc en se faisant bien accompagner, surtout moi. Peut-être mon erreur, c'est de vouloir tout faire, toutes les choses tout le temps, toute seule. Donc vraiment être bien accompagné. C'est un projet comme un autre, mais en plus, il a du sens. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel derrière en termes d'attente aussi des consommateurs, des citoyens, des territoires. Donc, et puis les ingénieurs agro ou même d'autres personnes avec des vies professionnelles peut-être différentes, c'est possible. Il ne faut pas se mettre des freins techniques ou des freins de compétences parce que ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est beaucoup de bon sens. Il y a de quoi se former aujourd'hui. On a de la chance. Donc il faut s'écouter quoi. Si on a envie de le faire, go quoi. Enfin, ce qui n'est pas évident, c'est de trouver des terres agricoles. Voilà. Mais sinon, il y a de plus en plus d'initiatives autour de Toulouse pour créer des parcelles tests, pour justement impliquer les territoires. Et les territoires ont compris l'intérêt aussi de s'impliquer dans cette démarche de remettre de la production agricole près des villes. Donc je pense que c'est un mouvement qui se développe, qui est bien démarrer, donc c'est super positif. Hein. Je trouve que il y a plein d'initiatives locales qui sont géniales. Donc ça, c'est chouette, c'est bon signe.
Nadège, je te remercie beaucoup pour ton témoignage et je te souhaite beaucoup de chance dans tes prochains projets et puis je te dis à très bientôt.
Ouais, merci Jean-Philippe, toi aussi. Bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, Allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez !